Je le disais en début d'émission, l'Association des personnes handicapées de la Rive-Sud-Ouest célèbre ou souligne cette année son 40e anniversaire, mais ça célèbre également. Bonjour Nancy Côté, directrice générale de l'organisme.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va bien, merci vous.
Oui, merci. L'association est donc née en 1980. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de votre organisme qui est situé à la Prairie, n'est-ce pas?
Oui, effectivement. Donc, brièvement, ce que je peux vous dire, c'est que, comme vous l'avez mentionné, on est né en 1980, le 6 août précisément.
Ah oui?
Oui, donc c'est vraiment ce mois-ci là, qu'on célèbre, qu'on souligne du moins notre 40e anniversaire. Et cet organisme-là est né en fait d'une volonté des personnes handicapées elles-mêmes et des parents de personnes handicapées qui, à l'époque, souhaitaient promouvoir et faire reconnaître les droits des personnes handicapées, parce que si on se ramène à cette époque-là, on était dans l'isolement, beaucoup des personnes handicapées, dans l'institutionnalisation aussi de cette partie-là de la population. Alors, dès le début des années 80, là, il y a plusieurs organismes qui ont vu le jour, dont le nôtre. Et le travail au cours des 40 années qui ont suivi, en fait, a visé à faire reconnaître ces droits-là et à pouvoir les exercer par la suite. Donc, ça s'est manifesté de toutes sortes de façons. Les organismes, dont le nôtre, ont contribué au développement du transport adapté, des services d'intégration en milieu scolaire, d'intégration en service de garde, aux loisirs. On a parlé d'accessibilité aussi, parce que on travaillait avec une société qui était malheureusement pas conçue pour accueillir cette partie de la population. Donc, il y avait plusieurs champ de bataille là, à livrer et ça a été fait là, par le personnel et par les bénévoles au cours des 40 dernières années et ça se poursuit encore aujourd'hui.
Ah oui, ça va se poursuivre longtemps. Vous représentez quelle personne, quel type de handicap?
Tout handicap. Tout âge confondu. Donc, l'objectif qu'on vise, en fait, c'est d'être représentatif de l'ensemble des personnes handicapées. Donc, peu importe la limitation, peu importe la situation familiale, géographique, financière, les besoins et la réponse aux besoins, pour nous, elle est la même. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas ciblé de personnes en lien avec un type de limitation. Pour nous, l'exercice des droits, ça s'applique à tous et c'est au nom de tous qu'on exerce notre travail.
C'est très inclusif comme association.
Oui, tout à fait.
Et Mme Côté, est-ce que la pandémie affecte beaucoup vos activités?
Oui, dans la mesure où les activités en présentiel, où est-ce qu'il y a des regroupements de personnes, on a été très limités là dans l'application de ces activités-là. Quant à la mission première, je vous dirais non, dans la façon de faire, oui, mais notre rôle à nous, c'est de soutenir les personnes handicapées et leurs proches, donc qu'on le fasse en présentiel ou qu'on le fasse par téléphone, en virtuel, pour nous, le travail, il est le même. Maintenant,
parce que je vous coupe, mais
oui.
Je suis dans le sujet, là, parce que je disais que vous avez des projets, gang des pas pressés, le dîner cause trait d'union riz avec des jolis jeux de mots. Mais ça, ce sont des activités où les gens, j'imagine, se rencontrent en personne. Est-ce que ça fonctionne quand même?
C'est ça. Ces activités-là, normalement, se déroulent dans nos locaux. Donc, au tout début de la pandémie, bien évidemment que tout ça a fait relâche au niveau physique, mais on a transposé ces rencontres-là qui se veulent des rencontres de socialisation et d'échange. Donc, à partir de là, on a transféré ces types de services-là dans le virtuel. Comme on a basculé, comme la grande majorité de la population aussi, dans le monde virtuel.
Est-ce que ça s'est fait simplement ou il y a eu beaucoup d'obstacles?
Assez simplement, puis on était surpris dans le sens où pour nous, le virtuel, bon, pour les employés, ça va, on est capable de s'adapter, mais il faut dire qu'on a une clientèle d'une part qui a une déficience intellectuelle, et d'autre part, on a des adultes aussi pour la gang des pas pressés qui sont des adultes d'un âge plutôt avancé. Donc, pour nous, on anticipait un défi quand même important là en matière d'adaptation à la technologie.
Il y en a qui ont carrément pas d'ordinateur aussi?
Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est une contrainte. Évidemment que là, c'était difficile pour nous là de rejoindre de cette façon-là. Mais pour ceux et celles qui avaient des ordinateurs à la maison et n'étaient pas nécessairement familiers avec les applications Zoom et Teams et compagnie, nous non plus d'ailleurs. Donc, on s'est tous adaptés ensemble puis on était étonnamment surpris surpris de la capacité d'adaptation de nos membres. Et,
mais je pense que quand on veut, on peut, hein, finalement, parce que oui. C'est important pour eux là, de participer à ces activités-là, étant donné que ça compte et ils ne pouvaient pas le faire autrement.
Tout à fait. Je pense qu'on n'aurait jamais osé penser de faire des rencontres de cette façon-là. Mais là, par la force des choses, on était obligés. C'était ça ou c'était pas du tout.
Ouais.
Donc, on s'est tourné vers cette option-là qui, je l'espère, va quand même être à court terme. Parce qu'au niveau des relations humaines, là, c'est minimaliste de faire ça de manière virtuelle. C'est pas souhaitable, mais bon, on est pris comme la majorité de la population avec cette réalité-là. Mais somme toute, ça se déroule beaucoup mieux qu'on pensait. C'est sûr qu'ils ont la plupart ont eu besoin là d'être guidés. On est devenu un peu un soutien technique en matière informatique, ce qui n'était pas du tout dans notre c'est pas dans notre spécificité. Mais bon, on s'est adapté, puis somme toute, donc les services ont pu être maintenus de cette façon. Là, quand il y a eu un petit peu de relâchement en ce qui nous concerne, d'assouplissement, je devrais dire, toujours en maintenant les règles sanitaires, mais mm-hmm. Là, on a pu réintégrer progressivement quelques personnes pour maintenir ces activités-là en présentiel pour ceux et celles pour qui c'était plus difficile le virtuel là, ou que les besoins étaient jugés essentiels là, de sortir.
Ça veut dire qu'il y a des membres qui peuvent aller où? À votre adresse, là, à la Prairie.
Oui, mais on est très limité. Je vous dirais, nous, on a des beaux grands locaux, mais en raison des règles sanitaires, là, je vous donne un exemple. On a 6 personnes maximum qui peuvent venir, alors qu'avant, il pouvait être 20-30.
Oui. Comment vous faites les choix? Parce qu'il y en a qui doivent se sentir un peu lésés. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi?
Bien, on s'était posé la question, puis pour nous, c'était tout un défi, mais je vous dirais en toute honnêteté qu'on a lancé l'invitation et que il y a encore beaucoup de nos membres et de leurs familles qui craignent l'éclosion ou les risques de contamination.
On peut les comprendre.
Toutes les mesures, tout à fait. Puis il faut comprendre aussi qu'on a de la clientèle qui ont des problèmes de santé parfois ou des particularités qui fait qu'ils ne sont pas nécessairement plus à risque, mais ils sont plus à risque de complications s'ils devaient attraper la COVID et des parents aussi qui peuvent avoir des problèmes de santé ou qui sont vieillissants. Donc, toute cette crainte-là, puis on l'a vu, là, on a jasé un petit peu avec nos partenaires, ça semble être un constat là, qui n'est pas juste chez nous, c'est qu'on anticipait de devoir, pas privilégier, mais définir qui serait là, et puis ça, c'était déchirant un petit peu pour nous, mais dans les faits,
vous n'avez pas été obligé de le faire?
Non, pas à venir jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on aura à le faire? Je le sais pas. Mm-hmm. Mais l'idée, c'était d'être capable de donner, de rejoindre tout le monde, d'être capable d'offrir les services à tout le monde, quitte à ce que ce soit fait en rotation pour permettre l'accès à tous. C'est ce qu'on va regarder, mais je vous dirais que ça ne s'applique pas pour le moment, justement en raison des craintes là, que les personnes et leurs familles ont encore aujourd'hui. Mais à partir du moment où on nous a donné la possibilité de pouvoir offrir un petit peu de services en présentiel, c'est sûr qu'on a tenté de réactiver là, ce qui était possible de faire, en fait.
Oui. Et du côté de la défense des droits, quels sont les sujets qui vous occupent le plus en ce moment?
Actuellement, je vous dirais qu'il y a beaucoup, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes pour la suite des choses.
Ouais.
Parce que on était optimiste pour l'avenir. On se disait qu'il y avait beaucoup de dossiers. On a des belles collaborations. Hein. Faut dire, on travaille en partenariat avec beaucoup de gens et on était sur de belles lancées là pour trouver des solutions, des pistes de solutions, du moins pour améliorer la qualité de vie des personnes, développer des meilleurs services. En tout cas, on était là-dedans là avant la pandémie en se disant qu'il y avait une ouverture un peu partout de la part de nombreux décideurs. Sur notre territoire, en tout cas.
Vous étiez sur une belle lancée, là.
Oui, on était très optimistes pour la suite des choses. Et là, avec l'arrivée de la pandémie, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. On se disait comment on va faire pour développer des nouveaux projets, pour mieux soutenir nos personnes, alors que les ressources financières, là, et économiques, on ne sait pas là, l'impact que ça va avoir, tout ça. Il y a des instances actuellement qui essaient de survivre.
Ouais.
Alors, ils sont certainement pas en train de se poser la question de savoir comment on va améliorer le sort des personnes handicapées. Là. Ils ont d'autres préoccupations actuellement qui nous dépassent. Ça, pour nous, c'est une grande inquiétude, mais je dirais que la principale inquiétude qu'on a, c'est l'impact de tout ça chez nos personnes et nos familles. Parce qu'à l'heure actuelle, depuis le mois de mars, il y en a beaucoup qui ont été confinés, qui avaient accès à des services d'adaptation, de réadaptation, de maintien à domicile, d'activité de loisirs, de travail, et tout ça a été suspendu. Il y a quelques services qui reprennent là, progressivement, mais déjà que nos personnes et nos familles nous disaient que les services étaient inadéquats ou du moins étaient en nombre insuffisant pour répondre à leurs besoins. Là, c'est clair pour nous que la pandémie est venue mettre ça en lumière. Mmh. Et on se dit comment ça va reprendre, tous ces services-là. Mais au final, tout le temps qu'on est encore un peu confiné, ça va être quoi l'impact de tout ça chez des familles qui étaient déjà fatiguées, épuisées, à bout de ressources avant la pandémie? Et nos personnes qui étaient à domicile, un exemple, qui avaient de l'aide à domicile, mais en nombre insuffisant, qui là se sont retrouvées isolées et qui le sont encore, même s'il y a des assouplissements un peu partout. Cette clientèle-là, cette partie de la population-là est encore confinée, en fait. Fait qu'on se questionne beaucoup sur l'impact social qu'il va y avoir autour de ça. Là.
De l'inquiétude, des questions, mais est-ce que vous avez quand même le cœur à la fête, malgré tout? Étant donné que c'est votre 40e cette année?
Oui, il faut y penser. On peut pas mettre ça de côté parce que malgré tout ça, on se dit que 40 ans, c'est jeune pour une organisation. Puis quand on regarde en arrière, on est forcé de constater que la société a évolué beaucoup en 40 ans. Même si on est un peu pessimiste sur ce qui se passe actuellement puis qu'on a plusieurs craintes, il y en demeure pour moi que socialement, notre communauté, elle a évolué beaucoup en 40 ans. Donc, de passer ça sous silence, ça serait un petit peu triste. Mais
comment vous comptez souligner votre anniversaire?
En fait, on avait planifié de faire le dévoilement d'une œuvre qui a été réalisée ici à l'interne au cours de l'automne dernier grâce à des bénévoles qui sont membres de notre conseil d'administration, dont une artiste. Il y avait été question de faire une fresque qui est en fait un immense casse-tête où chaque pièce du casse-tête devait représenter une partie de l'évolution de notre société en matière d'inclusion et de participation sociale. Et ce projet-là, il a été réalisé avec une dizaine d'adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Donc, le projet final, il est de toute beauté. Mmh. Puis on avait prévu en faire le dévoilement officiel ce printemps.
Et ce printemps, vous parlez le printemps dernier?
Le printemps dernier.
Oui.
Donc, on souhaitait mettre ça en lumière et souligner particulièrement le 40e de cette façon-là. Là, avec la situation qu'on connaît actuellement, ce dévoilement-là est reporté à une date ultérieure. Donc, on ne sait pas. Chose certaine, c'est que ça ne passera pas sous silence, mais à quel moment tout ça va être dévoilé, là, on n'est pas en mesure de répondre à cette question-là tout de suite. Là.
Bon, alors j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler au moment où vous aurez la chance de dévoiler cette œuvre. Un casse-tête, c'est un peu symbolique hein, dans tout ce phénomène lié à la pandémie. Là, beaucoup, beaucoup de problèmes et de questionnements, mais on va à un moment donné voir la lumière au bout du tunnel. Là, ça commence tranquillement. Il faut garder espoir, Nancy.
Oui,
Nancy Côté.
Tout à fait. Puis il en demeure pas moins que les personnes handicapées et leurs proches ont besoin de l'ensemble du réseau, ont besoin de tout le monde actuellement là, autour d'eux pour être capable de passer à travers et de passer au travers de manière positive, le plus positif possible là, dans les circonstances. Fait que c'est sûr qu'on sera là.
Ben, vous écoutez, vous nous inspirez confiance.
Ben, tant mieux!
Nancy Côté, directrice générale, donc, je le rappelle, de l'Association des personnes handicapées de la Rive-Sud-Ouest. Merci beaucoup pour cette entrevue, puis bonne fête à votre association.
Ben, merci beaucoup!